Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Ce matin, notre invité de ce matin, avant de l'introduire, j'aimerais juste vous dire qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir ce matin et il était très déçu. Vous savez, j'aime beaucoup le hockey. Donc, il était très déçu de la game de hier des Canadiens. J'ai dit, prends courage, viens dans la maison de Dieu, intercéder pour ton équipe. Vous savez, ça m'a montré aussi dans le naturel qu'est-ce qu'on pense. Des fois, on dit, je ne vais pas aller à l'église parce que je n'ai pas une bonne semaine. Mais si tu n'as pas une bonne semaine, c'est la meilleure raison d'être à l'église. Parce que tu vas à l'hôpital quand tu ne te sens pas bien. Pas quand tu es très bien. Mais je t'invite de venir aussi quand tu te sens bien à l'église. Là. Mais les deux, parce que l'hôpital spirituel, on en a besoin quand on est bien, tout comme quand on n'est pas bien. Même. Et notre invité d'aujourd'hui est pasteur dans l'équipe d'Impact. Impact qui est le mouvement de la jeunesse de l'Église Nouvelle Vie. Une église qui a de l'impact et on est fiers de cette église parce que souvent on croirait peut-être que dans la francophonie il n'y a rien qui se passe, mais j'aimerais te dire qu'il y a des grandes choses qui se passent dans la francophonie. Le même Dieu qui est dans le milieu anglophone est aussi dans la francophonie. Et c'est un privilège pour moi de l'avoir ici des nôtres. Il n'est plus un invité parce que vous allez le voir assez souvent et c'est vraiment quelqu'un de la maison et nous voulons accueillir le pasteur Jean-Philippe Baudry.
Merci Emmanuel. Comment ça va ce matin? Ça va bien? Moi aussi, j'étais affecté par la défaite du Canadien hier. Ça, c'est officiel. C'est officiel. Pour que je finisse même pas de regarder un match, c'est parce qu'il fallait que ce soit horrible. Mais c'est une série de 7. Puis c'est pas parce qu'on a un genou à terre qu'on ne sera pas capable de se relever. On aurait pu faire une application spirituelle à ça. Mais on a un autre message ce matin. Avant de commencer, les rénovations sont incroyables. C'est incroyable. Juste l'entrée, le comptoir, toutes les lumières, le plafond. En plus, dans votre thématique actuelle, qui est le filet, moi je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a pas une meilleure façon de décorer la maison de Dieu que pour recevoir les nouveaux qui vont arriver. Parce que je crois qu'il faut se préparer. On veut des nouveaux, on prie pour que des gens pour que Dieu sauve des gens, pour que des âmes viennent à Dieu, mais il faut être prêt. On ne peut pas prier pour que Dieu nous envoie des gens, sinon on n'est pas prêt à les recevoir. Et les rénovations, pour moi, c'est un pas de foi extraordinaire. Ça demande des sous, ça demande beaucoup de temps aux gens ici, ça se fait pas tout seul. Mais ça, c'est un investissement. Moi, je crois que Dieu voit et Dieu va bénir ça. C'est que Dieu voit qu'alors que les gens ne sont pas encore tous arrivés, qu'on prie à chaque semaine pour des nouvelles personnes qui viennent à Jésus, mais alors qu'ils ne sont pas encore ici, nous, on se prépare, nous, on construit, puis nous, on va être là quand ils vont arriver. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. J'avais vu les photos sur Internet, mais quand je suis rentré ce matin, c'était 10 fois plus beau que sur Internet. C'est extraordinaire. Et j'aime beaucoup, beaucoup la thématique dans laquelle vous êtes en ce moment, parce que pour moi, une grande partie de mon cœur est pour l'évangélisation. Pour moi, je me dis, si on est ici à faire ce qu'on fait, si on est ici les dimanches, si on fait des activités, on essaie de rejoindre les gens, c'est juste à ça que sert l'Église. On ne peut pas juste être dans l'église puis se faire du bien puis juste faire des réunions entre nous. Notre focus doit être à aller chercher des gens pour Dieu. Et je crois qu'alors que Dieu nous sauve, Dieu nous appelle à en sauver d'autres. Il a des outils dans ses mains pour aller en sauver d'autres. Et pour moi, cette thématique-là me passionne énormément. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup de stock ce matin. Je vais être sûrement obligé de sauter quelques points, mais c'est un sujet, moi, qui me passionne énormément. Et alors que cette semaine, je me préparais, je me disais, s'il y a une chose dans notre vie, qu'on a le droit de ne pas se contenter. Parce que Dieu nous appelle à se contenter puis à être content de peu importe l'état dans lequel on est. Mais s'il y a un domaine de nos vies qu'on a le droit de jamais être content, c'est le nombre d'âmes qui est dans l'Église. Amen. S'il y a un domaine qu'on a le droit de dire, Seigneur, ça, c'est pas assez. Ça, c'est bien, merci Seigneur pour ce que tu nous donnes, mais ça, c'est pas assez. C'est les âmes. C'est le seul domaine dans lequel on a le droit de jamais être content. Et on veut se réjouir avec ceux qui viennent. Mais une fois qu'on s'est réjouis avec eux, eux sont dans la mission avec nous après. Donc, il faut toujours se dire, Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes, mais on en veut plus. Amen. Et ce matin, je veux qu'on regarde à Jésus. Il n'y a pas une meilleure personne qui a regardé à Jésus, comment lui a fait, comment lui a bâti l'Église, comment est-ce que lui faisait son ministère pour baser le nôtre. Parce que si on veut ressembler à quelqu'un, c'est à Jésus. Donc, on veut regarder. Puis ce matin, je veux regarder avec vous à quel point toute l'histoire de l'humanité pointe vers Jésus. Puis depuis la venue de Jésus, Jésus est encore à l'œuvre. Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que ses enfants, il nous appelle à aller chercher ces gens-là. Et on va regarder à travers la Bible. Comme par exemple, comme Jésus, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas Jésus. On ne voit pas Jésus comme personne. On le voit à partir des évangiles. Mais Jésus est présent dans l'Ancien Testament. Puis ce matin, je veux qu'on regarde ensemble, on va regarder une vue d'ensemble de la parole de Dieu, à quel point, est-ce que même dans l'Ancien Testament, Jésus était annoncé. À quel point que la Bible, c'est pas il y a un Ancien Testament, puis un jour, Jésus est arrivé. Jésus a toujours été là, Jésus a toujours été annoncé, et Jésus a toujours été au centre du plan de Dieu. Donc, si on regarde l'Ancien Testament, c'est une fondation pour Jésus. Alors que Dieu a créé le monde, le peuple de Dieu pendant l'Ancien Testament, Jésus n'était pas là physiquement, mais était là quand même. Et alors que l'Ancien Testament est là, ça annonce et ça pointe vers Jésus. L'Ancien Testament est rempli de prophéties qui nous pointent vers Jésus. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on regarde les écrits des évangiles, ce n'est pas la première fois que la Bible parle de Jésus. Les théologiens vont s'entendre pour dire qu'il y a environ 300 prophéties directes sur Jésus dans l'Ancien Testament. Alors, lorsqu'on lit la partie de la Genèse jusqu'à la première page du Nouveau Testament, il y a à peu près 300 prophéties. Donc, Jésus est déjà annoncé. Là, on va regarder seulement un seul texte ce matin, parce qu'on n'aura pas le temps de lire les 300 ce matin. Mais on regarde un seul texte qui va nous mettre en perspective que même alors que Jésus n'était pas là, Jésus était au centre du plan de Dieu, même des centaines d'années avant. Dans Michée 5, les versets 1 à 4, on plonge tout de suite. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » On parle de Jésus ici. Verset 2, « C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. » Verset 3. « Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. » Et alors qu'on lit ce texte-là, c'est clair qu'on parle de Jésus ici. C'est alors que Michée écrit, il parle de Jésus. Il parle que Jésus va venir, il parle que Jésus va naître physiquement, mais ce n'est pas encore l'heure. Michée, c'est environ 700 ans avant l'arrivée de Jésus. Donc, déjà 700 ans avant, il y avait déjà des prophéties qui nous annonçaient que le Sauveur allait venir et que par lui, tout allait changer. Et ça, c'est juste une petite capsule de voir comment c'est que dans l'Ancien Testament, Jésus était là. Mais le Nouveau Testament nous révèle Jésus. Parce que alors que l'Ancien, si on passe à travers l'Ancien Testament, toutes sortes de prophéties nous pointent vers lui, mais alors qu'on arrive dans le Nouveau Testament, ça nous révèle Jésus. On voit Jésus. Jésus est là. Et ça accomplit toutes les prophéties qu'il avait dit sur lui dans l'Ancien Testament. On regarde un seul texte, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les lire non plus, mais dans Hébreux, chapitre 10, les versets 8 à 10. Il a d'abord dit, « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a été déclaré, « Me voici, je viens au Dieu faire ta volonté. » Donc, il n'y avait pas de sacrifice, des holocaustes, d'animaux ou ce qui était plus culturellement fait avant. Jésus s'est offert lui-même en sacrifice. Donc, c'est ce que le texte nous dit. « Me voici, je viens au Dieu faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour rétablir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, l'Ancien Testament nous annonce que Jésus va être là. Le Nouveau Testament nous révèle que tout ce qui a été dit sur Jésus était vrai. Et que tout ce que Jésus a déclaré qu'il allait faire, il le fait. Et que toutes les formes de sacrifices qu'on pouvait voir dans l'Ancien Testament, comme les sacrifices d'animaux pour les péchés, ça, c'était fini. Jésus a payé une fois pour toutes. Et j'aime le texte qui finit par « une fois pour toutes ». Il n'y a plus d'autre chose à faire, il n'y a plus rien d'autre. Jésus l'a payé, c'est terminé. Nos péchés ont été, le prix a été payé une fois pour toutes et c'est tout. Et alors qu'on lit ça, on s'en va quelque part ce matin. C'est pour comprendre que dans le plan de Dieu, il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B. L'Ancien Testament, ce n'est pas un plan A, puis finalement, ça n'a pas marché, puis le Nouveau Testament, il a amené Jésus. Jésus a toujours été le plan A. Et alors que Jésus vient, paye le prix, Jésus déclare une chose en le faisant. Ce que Jésus est en train de dire, c'est maintenant, dans la vie, tout ce qui était ancien, c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et on connaît le verset. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que Jésus a déclaré en le faisant. En faisant le sacrifice sur la croix, c'était terminé. Tout était nouveau. Et la venue de Jésus sur terre a changé l'humanité à tout jamais. Il n'y a jamais eu d'événement historique, même si on regarde un aspect historique, il n'y a jamais eu d'événement historique qui a changé, qui a chamboulé l'histoire de l'humanité comme la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, tout a changé. On a juste à regarder, par exemple, notre calendrier. Notre calendrier, on est en 2014 aujourd'hui, mais c'est 2014 ans après Jésus-Christ. Donc, chrétien, pas chrétien, athée, peu importe, ton calendrier est fait à partir de la naissance de Jésus. Donc, non seulement Jésus a accompli le Nouveau Testament, mais la venue de Jésus a des répercussions historiques jusqu'à nous, croyants, non-croyants. Nos dates sont reliées avec sa naissance. Toute l'histoire est divisée par un avant et un après Jésus. Toute l'histoire. Athée ou non, on doit juste être conscient que notre histoire en tant qu'humanité est séparée par la venue de Jésus. Et Jésus a tracé, littéralement, c'est une ligne dans le temps. Il n'y a aucun autre événement qui a pu être aussi marquant. Il n'y aura aucun événement qui va être autant marquant. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on réfléchit par exemple à ce qui s'est passé près de chez nous dans les dernières années, un événement qui a chamboulé le monde, par exemple, on peut penser au 11 septembre. Le 11 septembre, ça a été un événement qui a chamboulé la planète. Et ça n'a pas été un pays, ça n'a pas été juste une nation, ça a été littéralement la planète qui a été chamboulée par ça. C'était une des puissances mondiales, les États-Unis, qui ont été ébranlées. Pas pendant juste une journée, pendant des mois. On en a parlé, puis il y a eu la guerre qui s'en est suivie. Donc, ça a été un événement qui était extrêmement chamboulant pour l'humanité. Mais même le 11 septembre n'arrive pas à la cheville de Jésus-Christ. Même le 11 septembre n'aura pas un seul pourcentage de l'impact que Jésus a eu dans l'histoire de l'humanité. Parce que vous et moi sommes la preuve aujourd'hui de l'impact de Jésus. Et alors qu'on réfléchit à ça, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des événements marquants dans nos vies, à nous aussi. Donc, Jésus est venu, ça a changé le cours de l'histoire. Le 11 septembre, c'est un événement qui a changé le cours des États-Unis et de notre nation. Mais dans nos vies, à nous aussi, il y a des événements qui nous changent. Comme par exemple, moi, j'en ai sorti quelques-uns cette semaine. Des événements qui ont changé ma vie à moi. La découverte du café. La découverte du café pour moi. Comme Jésus, il y a un avant et un après. Dans ma vie à moi, il y a un avant et un après le café. J'ai découvert le café alors que j'étais étudiant au cégep. Et ça a été un point de non-retour pour moi. J'ai découvert le café, je n'ai plus jamais vécu sans café. Et pour moi, le café, ça a été un événement marquant. Et tout le monde dit amen. Amen. Le plus gros amen de mon message jusqu'à maintenant, c'est pour le café. C'est génial. Il y a un autre événement marquant dans ma vie. J'en ai quelques-uns. Ça a été mon mariage. Amen. J'en ai au moins un. Mon mariage. Donc, ça a été l'année dernière. Ça va bientôt faire un an qu'on est mariés. Ça fait un peu plus de 10 mois. On peut applaudir. Donc, il y a un avant et un après. Avant d'être mariés, les gars, on pense qu'on connaît les filles. On pense qu'on est là, puis on pense qu'on les connaît, puis finalement, on réalise qu'on les connaît pas pendant tout. On comprend rien. On essaie de les comprendre, mais on comprend pas. Donc ça, c'est le avant. Puis après le mariage, tu réalises que tu les comprends pas encore. Donc ça, c'est un avant et un après. C'est avant et après. Par exemple, une autre chose pour moi qui est un événement marquant dans ma vie. Prêcher. Pour moi, ça a été un événement qui a vraiment changé toute ma vie. Parce que moi, je suis né dans une famille chrétienne, mais je me suis éloigné de Dieu pendant plusieurs années dans mon adolescence. Je suis revenu, j'ai 24 ans, je suis revenu à Dieu à 20 ans. Puis pour moi, j'ai aucun background familial, personne prêche dans ma famille, aucun pasteur. C'est pas quelque chose pour moi qui est même familial. Puis pour moi, je sentais que Dieu m'appelait au ministère, je suis rentré au collège biblique sans même pas penser de prêcher un jour. J'avais à cœur les pauvres, j'avais à cœur de peut-être avoir un ministère pour les pauvres ou un organisme chrétien pour les pauvres, mais jamais prêcher. Pour moi, prêcher, il y a un avant et il y a un après. Parce que, alors que même si tu essaies, ça c'est une parenthèse ce matin, mais même quand tu essaies de t'éloigner de ce que Dieu veut t'appeler à faire, peu importe comment loin tu peux essayer d'éviter, puis même si tu penses que Dieu t'appelle à le faire ça puis ça ne te tente pas de le faire, peu importe où tu vas aller, Dieu va te ramener toujours. Et puis alors qu'il fallait que je me rende à l'évidence que Dieu m'appelait à prêcher, Ben, j'avais une vision qui était biaisée de la prédication. Parce que quand tu regardes, moi je regardais les prédicateurs, je me dis, tu sais, ils ont tout le temps l'air en feu, ils ont tout le temps, tu sais, c'est la présence de Dieu, la préparation, ça doit bien aller, tu t'installes avec ta Bible, tu pries un petit peu de louange en background, tu fais ton message, tout va bien, tout coule, tout est parfait, tu arrives le dimanche ou le vendredi, puis c'est parfait, tu prêches, puis c'est, oh non, ça c'était le avant. Le après se résumerait plus par, maintenant que je connais la prédication, ça se résumerait plus par une position fœtale de moi-même, en boule. Parce que alors que je prépare un message, alors que tu es en préparation, tu pries, ça va pas tout bien, ça coule pas. Tu peux mettre de la louange, tu peux prier, ça va pas bien, toujours. Je dis pas que c'est toujours atroce, mais la plupart du temps, c'est atroce. Et puis, donc il y a un avant et un après pour moi dans la prédication, parce qu'avant, j'avais une vision qui était vraiment biaisée. Là, aujourd'hui, j'ai une vision qui est... Et je le fais presque à chaque semaine, donc je le vis, puis c'est vraiment pas ce que je pensais. Donc, un avant et un après. Par exemple, je suis déjà venu ici vous partager avec Marc Ta Génération ce qu'on fait avec, pour les pauvres, avec la jeunesse, avec des dizaines et centaines de jeunes qui servent les pauvres. Pour moi, alors qu'on avait cette vision-là avec une petite équipe de servir les plus pauvres, le avant, c'était qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que les jeunes viendraient à ça? On se disait, mais on va aller servir les pauvres, mais pourquoi est-ce que les jeunes viendraient nous aider à servir les pauvres? Comment est-ce qu'on va arriver à ce que des jeunes prennent de leur temps, de leurs sous, puis viennent s'investir pour comme être l'Église pour les pauvres? On dit, mais comment ça va arriver? Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Donc ça, c'était le avant. Puis alors qu'on l'a fait, aujourd'hui, la pendule a changé de côté. Parce que maintenant, il y a tellement de jeunes qui viennent qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va trouver de la job pour tous les jeunes qui viennent? On sent les pauvres, on continue de le faire. Mais avant, on avait peur de comment est-ce que les jeunes vont venir. Puis aujourd'hui, bien, Dieu bénit tellement, puis on travaille fort, puis Dieu a sa main sur nos projets, mais on se dit, mais comment est-ce qu'on va trouver du travail à faire pour tout le monde? Parce qu'il y a trop de jeunes qui viennent. Donc, un avant et un après. Puis c'est la même chose pour un avant et un après Jésus dans ma vie. Il y a eu un avant Jésus, où j'étais loin, où tu étais malheureux. Tu essaies de profiter des choses du monde, tu essaies de vivre ta vie comme toi tu le penses. Tu essaies de faire les choses à ta façon. Tu essaies de dire que c'est toi qui contrôles ta vie. Tu essaies de dire que c'est moi qui est au contrôle. Puis ça, c'est le avant. Et un jour, Jésus m'a rattrapé. Même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, je me suis éloigné, j'ai fait mes propres choix à l'adolescence. Mais Dieu m'a ramené quand même un jour. Et à ce jour-là, il y a un avant et un après. Jésus a tracé une ligne dans ma vie. Et ce matin, c'est le cœur de mon message. C'est que Jésus est venu tracer une ligne dans le temps et dans l'histoire. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu faire principalement. Jésus est venu tracer une ligne dans la vie des gens. Personnellement. C'est pas juste un événement historique, c'est pas juste une ligne qui se trace dans le temps et qu'on peut dire qu'on est en 2014 parce que Jésus, c'est lui qui a séparé notre calendrier. Jésus est venu tracer une ligne dans la vie de ceux qui ont mis leur foi en lui. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Pour moi, c'est une ligne qui a été faite dans ma vie. Il y a un avant, il y a un après Jésus. Et nous ici, à Ottawa, mais aussi à Longueuil, où est-ce que moi je suis, partout dans notre province, partout en francophonie, on est entouré de milliers de gens pour lesquels Jésus, c'est juste un événement historique. Pour lesquels c'est juste, on est en 2014 après Jésus-Christ. Ça, les gens peuvent le concevoir, mais on est entouré de milliers de personnes qui n'ont jamais connu Jésus personnellement. Parce que Jésus n'est pas venu faire une ligne dans leur vie à eux. Pour eux, c'est juste une ligne dans le temps. Et puis, on est entouré de gens qui sont dans cette situation-là. Même ici, dans notre église, dans notre ville ici. Et il y en a même ici, dans l'église, que tu as un pied d'un côté, puis tu as un pied de l'autre côté. Dans le sens que Jésus n'a pas fait une ligne claire encore. Il y en a qui, certaines choses de nos vies, on veut les garder, mais il y a d'autres choses de nos vies que ça, on le donne à Jésus, mais il y a d'autres choses que ça, on ne donne pas à Jésus. Dans le sens que Jésus est venu, mais la ligne n'est pas droite. La ligne, elle fait des courbes des fois. Ça, je la garde, ça, je ne la garde pas. Puis ça, ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus n'est pas venu pour juste marquer nos calendriers. Jésus est venu pour marquer nos vies avec une ligne claire, avec un avant et un après. Et la croix, c'est beaucoup plus que juste un événement de l'histoire. Billy Graham a dit ceci. Je n'ai pas besoin de présenter Billy Graham, le plus grand évangéliste que au moins l'Amérique a connu. Dieu a prouvé son amour pour nous sur la croix. Quand Jésus a souffert, a été humilié et est mort, c'était Dieu qui disait « Je t'aime ». Et Jésus est venu sur terre, non pour tracer juste une ligne dans le temps, ou juste pour dire que l'humanité s'est séparée en deux. Non. Jésus est venu et est mort sur la croix pour tracer une ligne dans chacun qui va mettre leur foi en lui. Et c'est ça le cœur de l'Évangile, c'est ça le cœur de la mission de l'Église. c'est de, lorsqu'on peut saisir ça, c'est qu'après sa résurrection, et juste avant de retourner à son Père, Dieu a donné une mission à son Église. Jésus a donné une mission à son Église. Alors que Jésus a fait ça, alors qu'il est mort sur la croix, alors qu'il a dit, oui, ça va séparer le calendrier, mais principalement, ça va séparer vos vies à vous. Alors que vous étiez brisés, vous étiez loin de moi, on était séparés, je suis mort pour vous, et c'est la ligne dans votre vie à vous que je veux tracer. C'est je veux qu'il y ait un avant et un après dans vos vies à vous. C'est pour ça que Jésus l'a fait. Et alors que Jésus a quitté, alors que Jésus est mort mais est ressuscité, il a donné une mission à son Église. Il ne nous a pas laissés juste comme ça. Il dit, alors que moi, je viens de payer le prix, alors que moi, je viens de faire le sacrifice pour vous, mais je vous donne une mission. On va la lire ensemble. Dans Matthieu 28, les versets 18-20. Jésus s'approcha et leur dit, puis prenons-le comme pour nous ce matin. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça, c'est notre mission. Alors que pour la plupart d'entre nous, Jésus a vraiment fait une ligne dans notre vie. On a un avant, un après, mais ça ne se termine pas là. Parce qu'alors qu'on vit avec Jésus, alors que Jésus est mort, Jésus vit en nous. Mais c'est ce qu'il nous a promis ici, qu'il est avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin du monde. Donc maintenant que Jésus vit en nous, on a une mission. Et cette mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc notre mission à nous, c'est pas juste d'être ici et de faire des réunions. C'est pas juste d'être à Longueuil, faire des réunions en France, faire des réunions d'église. L'église est là avec une mission. C'est d'aller chercher ceux qui ne connaissent pas, ceux que Dieu n'a pas encore fait une ligne dans leur vie. Et alors qu'on va le faire, et le plus grand paradoxe de ça ici, c'est que les plus grands personnages, les plus grands hommes et femmes de l'histoire, alors qu'ils sont morts, c'était terminé. C'est ça qui est toute la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'alors que, par exemple, on peut prendre comme Barack Obama en ce moment, l'homme le plus puissant de la Terre, un jour cet homme-là va mourir. Et on va écrire des dizaines de biographies sur sa vie. Mais son impact va être terminé. Pour Jésus, la tombe, lui, c'était juste le commencement. Le 30 ans qu'il y a de ministère, qui était là, qui a fait l'œuvre de Dieu, qui a répondu à ce que Dieu l'a appelé, son Père l'a appelé à faire, c'était juste une petite portion. Parce qu'alors qu'il était crucifié, le tombeau, ça commençait seulement. Son impact commençait seulement. Et alors que son impact commençait, maintenant, il agit à travers nous. Et alors que, comme le texte qu'on vient de dire, qu'il va être en nous jusqu'à la fin du monde, il nous appelle à faire toutes les nations des disciples. Donc, Jésus n'est pas moins là. Jésus est plus là aujourd'hui. Et il nous appelle. On a une mission à remplir. Nous ne pouvons pas seulement être là pour nous-mêmes. Ce matin, moi, c'est le genre de message qui dérange. C'est le genre de message qui rend inconfortable parfois. Parce que, humainement parlant, on veut être ici. On veut être bien. On veut que ce soit comme on veut. On veut être à l'église, que tout soit correct. On veut. Moi aussi, c'est comme ça. Notre nature humaine tend toujours vers ça. On veut être bien à l'église. On veut connaître tout le monde. On veut s'assurer que tout est correct. Mais c'est une zone de confort. Et Jésus nous appelle hors de notre zone de confort. On a une mission. Une mission, c'est jamais... Quand on part en mission, on ne reste pas chez nous. On sort de notre zone de confort. Si on va en mission, par exemple, moi, je suis allé en Haïti deux fois. Quand on va en mission, je sors de chez moi, je m'envoie à une place que je ne connais pas. Je fais des choses que je ne fais pas souvent. Puis je sors de ma zone de confort. Et la mission que Jésus nous a donnée n'est pas différente. Il faut sortir de notre zone de confort. Donc, je sais que c'est dérangeant, mais... Non, on ne peut pas juste être ici et se faire du bien entre nous. Il y a une portion qui est, oui, on est bien, frère et soeur, il y a la fraternité, on est là ensemble, communion ensemble, on est là les uns pour les autres, ça c'est totalement, l'Église est là pour ça. Comme Pasteur Emmanuel le disait, c'est un hôpital. L'Église est un hôpital spirituel. On est là, ceux qui ont le cœur brisé, c'est la place à venir. On est là, on prie ensemble, on cherche la face de Dieu ensemble. Mais l'Église ne peut pas être juste ça. Ça, c'est une portion. Mais il y a une portion de mission qui est là aussi. Et ensemble, on doit répondre à cette mission-là. Et un des théologiens préférés, Bonhoeffer, qui est un théologien, qui était un écrivain, théologien, pasteur, qui a vécu pendant le temps où Hitler était là. Il était allemand, donc il vivait, il a vécu toutes les horreurs du régime d'Hitler. Et lui, était au milieu de ça. Il a même été mis à mort par Hitler. Et lui, il vivait au milieu de tout ça. Il a dit une phrase qui, pour moi, va probablement me coller à la peau toute ma vie. C'est comme, tu sais, quand tu lis une phrase, c'est comme si la phrase sort de ton livre. C'est comme si on dirait que Dieu te parle, puis c'est comme ça, ça va être imprégné dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Il dit, l'Église n'est belle que lorsqu'elle est tournée vers ceux qui n'en font pas encore partie. Très simple. Très, très simple comme phrase, mais pour moi, ça a changé ma perspective. Ça l'a changé. Au moment où j'ai lu cette phrase-là, ça l'a changé ma perspective de qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire en tant que jeune homme. Même chose pour vous ce matin. L'Église va être belle lorsqu'elle va être tournée vers ceux qui n'en font pas encore partie. Puis en introduction, tantôt, je parlais des décorations, je parlais de tout ce qui est fait, tous les efforts qui sont faits pour rendre l'Église belle, pour que les nouveaux viennent. Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça, l'Église. C'est ça, l'Église. C'est ça. On va être tourné vers ceux qui n'en font pas encore partie. On va se préparer pour ceux qui ne sont pas encore ici. On va prier pour ceux qui ne sont pas encore ici. On va tout faire. On va changer le plafond, on va mettre l'éclairage, on va se pratiquer à la louange, on va devenir excellent. On va viser l'excellence pour Dieu. On va viser de l'excellence dans toutes choses pour ceux qui ne sont pas encore ici. Et c'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça que Bonhoeffer, c'est l'esprit de la phrase de Bonhoeffer. Il faut qu'on soit 100% tourné vers ceux qui n'en font pas encore partie. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore ici avec nous. Et Jésus œuvre à travers nous. Et quand on fait toutes ces choses-là, on ne le fait pas parce qu'on est bon, on ne le fait pas parce que... les hommes ne viennent pas à Jésus parce qu'il y a des belles lumières, ça on le comprend. Mais Jésus œuvre à travers nous. Alors qu'on le fait, ce n'est pas seulement nous qui le faisons. C'est Jésus qui le fait à travers nous. Alors qu'on prêche, alors qu'on fait la louange, alors qu'on fait des one-on-one, où on s'assoit, on parle avec des gens. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ce n'est pas juste nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait à travers nous. Puis ça, c'est important de le comprendre. Puis ce matin, question qui dérange. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour quelqu'un qui est non-chrétien? C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour vos voisins qui ne viennent pas à l'église? Puis je m'inclus là-dedans. C'est quand la dernière fois que j'ai prié pour mon voisin qui ne vient pas à l'église, que je salue presque à chaque jour, qu'on se croise, mais que je ne prie pas pour lui. Je ne parle pas de Jésus. C'est quand la dernière fois qu'on s'est arrêté en tant qu'église ou en tant que groupe, puis je m'inclus dans tout ça, là, puis qu'on s'est dit, regarde, on va aller voir telle personne qui ne connaît pas Jésus, puis on va demander, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une personne qui est dans le besoin non-chrétienne? C'est quand la dernière fois qu'on a fait un effort pour rejoindre des gens qui ne connaissent pas Jésus? C'est quand la dernière fois qu'on a partagé notre foi avec un non-chrétien? Moi, j'ai pensé à ça récemment, cette semaine en fait. Puis ça m'a frappé. Parce que cette semaine, je prenais un café avec un de mes amis qui est non-chrétien. Mais il sait que je suis chrétien, il connaît ma foi. On a eu toutes les discussions imaginables autour de Dieu. C'est juste que Dieu n'a pas encore convaincu son cœur. Mais je me disais, c'est quand la dernière fois que j'ai partagé ma foi avec quelqu'un que je n'ai jamais partagé ma foi? Quelqu'un de non-chrétien. Puis pour moi, ça m'a frappé, ça m'a parlé cette semaine. Parce que je me disais, je veux faire l'œuvre de Dieu, on veut le servir. Mais Seigneur, je demande pardon parce que je ne partage pas assez ma foi. Puis des fois, c'est difficile parce que des fois, c'est gênant. Des fois, c'est malaisant des fois de partager notre foi avec des collègues de travail ou à l'école. Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et on doit se battre pour eux. Le cœur de Dieu, c'est qu'aucun âme ne périsse. Comme je disais au début, s'il y a une chose qu'on ne doit jamais se contenter, qu'on ne doit jamais être satisfait, c'est le nombre d'hommes qui appartiennent à Jésus. Et Dieu lui-même ne va jamais se satisfaire du nombre d'hommes qui viennent à lui. Si on lit dans Jacques 5, versets 19 et 20, il est écrit que « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie, où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Ce que j'aime de ce texte-là, c'est que Dieu ne se cache pas qu'on a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste de prier ou juste d'espérer que Dieu va sauver des gens ou nos familles ou nos amis ou nos proches. Lorsqu'on lit le texte, c'est écrit que si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, donc si quelqu'un qu'on connaît, par exemple dans nos familles, dans nos amis, puis je sais qu'en disant ces mots-là, il y a probablement des noms qui vous viennent en tête. Il y a probablement des images de gens, ça va être des frères, des sœurs, des parents, des enfants qui sont loin de Dieu, des amis qui sont loin de Dieu. Et alors qu'il y en a qui sont égarés de la vérité, mais qu'un autre les ramène. Donc, lorsqu'on lit ça, on a un rôle à jouer. Ce n'est pas écrit qu'un s'est égaré et que l'Esprit de Dieu va le ramener. On croit que l'Esprit de Dieu va le ramener, mais à travers quelqu'un qui va le ramener. Et moi, cette verset-là change la perspective de l'évangélisation. Parce que c'est pas seulement on va prier, on va se mettre dans des locaux, puis on va prier pour les gens, puis Dieu va le faire. Puis Dieu n'est pas limité à nous non plus. Mais ce que le texte nous dit ici, c'est qu'alors qu'il y a un qui s'est éloigné, mais qu'un autre va lui ramener. Donc pas seulement en priant, en restant dans notre zone de confort, mais en les ramenant, en allant chercher, en prenant un café avec lui, en allant cogner à sa porte, si c'est un voisin, par exemple, puis juste d'aller commencer à parler avec lui, créer un contact et de le faire. Il y a tout un aspect de notre rôle à nous à jouer. Il a tracé une ligne, Jésus a tracé une ligne dans nos vies à nous, mais pour que nous, on devienne des outils pour que Dieu puisse le faire dans la vie d'autres. Et pour moi, il y a une histoire, quand je prépare ça, il y a une histoire qui pour moi, est frappante. un témoignage personnel avec des amis qu'on avait de l'année dernière, un an et demi environ. J'avais un petit groupe, ok? J'étais leader d'un petit groupe maison, ok? Où on se retrouvait, on était une douzaine de gars de la jeunesse, ok? Des jeunes gars, souvent un peu fous, tout ça. Donc moi, j'essaie de garder le contrôle sur une douzaine de gars qui ont les hormones dans le tapis, puis ils ont plein de questions, puis tu sais, 17, 18, 20 ans, puis tu sais, nouveaux chrétiens la plupart. Et on jouait au hockey ensemble. Et il y avait deux jumeaux, ok? Qui eux, s'étaient éloignés de Dieu, même, un peu comme le même témoignage que moi. Ils étaient nés dans une famille chrétienne, mais c'était éloigné de Dieu. Mais nous, on les connaissait quand même. Puis on jouait au hockey, puis souvent, ils venaient jouer au hockey avec nous, mais eux ne venaient pas du tout à l'église. Ils ne venaient pas dans le groupe, ils venaient pas. On les voyait juste au hockey. Puis nous, on s'est mis à commencer à prier pour ces gars-là, dans le groupe. On s'était dit, c'est pas vrai qu'ils vont finir loin de Dieu, ces gars-là. Dieu a un plan pour eux, Dieu veut les sauver, puis nous, Dieu nous a mis à côté d'eux. On les côtoie chaque semaine en jouant au hockey. C'est pas vrai qu'on va rien faire. Donc, non seulement on priait à chaque semaine dans le groupe pour eux, mais à chaque fois qu'on jouait au hockey, on les invitait à venir prendre des cafés avec nous. On allait au restaurant des fois après les parties. On parlait, on commençait à partager ce que Dieu faisait à travers nous, à travers l'église, à travers le groupe, tous les témoignages des gars. Et puis un jour, ces gars-là sont venus au groupe. Donc, ils sont venus au hockey. Mais j'ai reçu un texto un jour d'un des deux jumeaux qui m'a dit hey, Jean-Philippe, on va venir cette semaine. C'est à quelle heure, c'est où? Nous, c'était une réponse. Donc, on s'est dit, bien, regarde, gloire à Dieu, ils vont être là au groupe. Et puis, alors qu'on était dans le groupe, on a eu le temps de partage, on parlait ensemble, il y avait de la bouffe. Parce que quand tu as un groupe de gars de cet âge-là, il faut que tu aies de la bouffe. Ça. Alors, c'est comme des animaux. Donc là, on a ce temps-là. Moi, j'apportais un court partage, juste un verset biblique, puis on en parle ensemble et tout ça. Et en plein milieu, je suis en train de partager. Les deux jumeaux, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils sont partis. Ça, pour moi, ça a été un coup dur. Parce qu'on était une douzaine de gars, puis les deux se lèvent, puis ils partent en plein milieu. Mais ça, pour moi, ça a été un coup dur sur le coup. Mais ensemble, après, par exemple, on s'est dit, ben regarde, ils sont venus au groupe. Ils ont été des mois pour venir, des mois qui ne voulaient rien savoir. Là, ils sont venus, par exemple. Donc, mon point avec celui-ci, puis je vais terminer l'histoire, mais c'est, ça ne va pas toujours être de la façon qu'on s'attend. L'évangélisation, c'est difficile. C'est difficile. On ne peut pas rentrer en se disant, Seigneur, on veut gagner des âmes pour toi, puis penser que c'est facile. Yes. C'est tough. C'est dur, parler de Dieu. C'est dur de gagner des âmes. Ça demande beaucoup de travail, dans plusieurs niveaux. De la rénovation, mais également avec les gens. À tous les niveaux, c'est difficile. C'est du travail. Dieu n'a jamais promis que ça allait être facile. Il a promis qu'il allait être avec nous en le faisant. Mais il ne nous a jamais promis que ça serait facile. Et dans le groupe, donc, ils ne sont pas venus la semaine d'après. Ils ne sont pas revenus après. Mais il y a un jour, par exemple, à une réunion à Impact, notre jeunesse, on les avait invités, ils sont venus. Et ce soir-là, pour eux, c'était le soir où Jésus venait mettre la ligne. Donc, le groupe, oui, c'était décevant. Ils étaient venus, on était super contents, ils sont partis, on était démolis. Mais il y a eu quelque chose que Dieu est venu déposer quand même. Ce n'est pas de la façon qu'on s'attendait que ça le fasse, mais Dieu a continué son œuvre. Et le vendredi soir qui était là, à Impact, et que ça a été le message, ça a été là que Jésus venait dire, « Je peux juste un événement historique. » devient la ligne dans ta vie à toi aussi. Et ça a été pour nous un des plus grands témoignages. Puis aujourd'hui, je les connais super bien, puis ils sont impliqués à fond encore. Et il y en a même un des deux qui est en train de penser d'aller au collège biblique. Et puis ça, pour moi, je me dis, ça, c'est des gars, un groupe de gars qui priaient, mais qui ne faisaient pas juste prier. Et on priait ensemble, puis on croit que la prière a une grande efficacité, mais on accompagnait nos prières des actions. Et alors qu'on priait, mais on les invitait, on prenait du temps avec eux. Puis même s'ils sont venus et sont partis, mais on n'a pas arrêté de prier, puis on n'a pas arrêté de leur parler. Puis on a continué de le faire. Puis on croit que Dieu a mis sa main là-dessus, puis que Dieu a mis vie à ça. Et aujourd'hui, on regarde ces deux jumeaux-là, puis ils sont à chaque semaine impliqués partout. Puis il y en a même un des deux qui, on ne sait pas, va peut-être devenir pasteur un jour, un prédicateur un jour, ou un musicien pour Dieu un jour, on ne sait pas. Il veut consacrer sa vie à Dieu. On n'a aucune idée le potentiel que ça a de juste amener une âme à Dieu. On n'a aucune idée du potentiel. Billy Graham, que je parlais tantôt, Billy Graham, lui, sa conversion n'est pas spectaculaire. Son ministère a été incroyable. C'est lui qui a prêché aux plus grandes foules aux États-Unis et partout dans le monde. Il y a des millions d'âmes qui sont venues à Jésus par son ministère. Par son ministère en live, en prêchant, mais par la télévision, par les CD, par toutes sortes de médias. Mais la conversion de Billy Graham n'est pas spectaculaire, comme l'a été son ministère. Billy Graham habitait dans une petite ville aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, pratiquement pas d'habitants, une petite église de comme une vingtaine de personnes. Puis un pasteur qui était là, fidèle, une congrégation qui était là, qui était toujours là, fidèle pour l'église, puis qui prie. Puis un jour, un petit gars qui rentre, un jeune adulte, Billy Graham. Et le message du pasteur et l'amour des gens dans l'Église l'a tellement touché que Dieu venait toucher son cœur. Il y a un dimanche matin où c'est, ça a été son matin, parce que Jésus venait séparer. Et puis, c'est pas, il n'y a rien de spectaculaire. On n'a pas besoin d'avoir, comme je disais tantôt, plein de lumière, plein de choses. C'est une église, une petite église de campagne, parce qu'il y avait un pasteur fidèle, une congrégation qui était là, qui accueillait les gens, qui avait de l'amour. Et Billy Graham a dit, il y a eu deux choses. J'ai été touché par l'amour des gens. L'amour des gens dans l'église et le message de Jésus-Christ. Mais ça a été dans une petite église au fond des États-Unis qu'il y a eu une ligne directrice. Mais de ça est né le plus grand prédicateur que l'Amérique a jamais connu. Donc, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver ici. On n'a aucune idée quand que vous puis moi, on commence à ouvrir notre bouche pour Jésus puis qu'on commence à dire, il y a un Dieu qui est là. C'est pas juste une date historique, c'est un Dieu qui veut faire une ligne dans ta vie à toi. On n'a aucune idée le potentiel que ça peut avoir. Et ça, c'est le cœur de mon message ce matin. Et alors que je vais arriver vers la fin du message, je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Ce que j'avais sur mon cœur cette semaine, imaginez le potentiel de ceci. On comprend que toute la Bible est à propos de Jésus, que le ministère de Jésus était seulement orienté à sauver des âmes. Et qu'alors que Jésus l'a fait, il venait tracer une ligne dans le temps, mais il venait tracer une ligne dans la vie de chaque personne qui allait mettre sa foi en lui. Et accompagnait-il, il nous a donné une mission. Imaginez le potentiel de si chacun de nous, on s'engageait à ramener une âme à Dieu cette année. Si on fait juste se dire ensemble, une âme, on dit, Seigneur, moi, je veux m'engager ce matin, je veux dire, je te prie pour mon... Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, mais dire, je veux gagner une âme pour toi cette année. Juste une. Ça veut dire que l'année prochaine, on serait le double de nombre ici. On aurait doublé. Imaginez si l'année d'après, on se dit encore, une âme. Une âme, honnêtement, on est capable de faire. Pour gagner une âme, on est capable. Imaginez si l'année d'après, on se dit, on s'engage en tant qu'Église, que nous, on veut gagner chacun une âme pour Dieu. On veut dire que ce que Dieu a fait dans nos vies, on veut le partager. On veut que d'autres le vivent. La ligne n'est pas juste pour moi dans ma vie. Il n'y a pas un avant et un après juste pour moi. Mais la mission que Jésus nous a donnée, c'est de le partager. Et si on s'engageait chacun une âme, imaginez ce qu'on pourrait faire. Imaginez sur 5 ans, imaginez sur 10 ans, tout ce que ça pourrait changer. Comment est-ce que notre ville changerait pour Jésus? Le potentiel de ça est incroyable. Et puis je pensais à ça cette semaine, et puis je me dis, le potentiel de juste se dire, Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes, merci pour notre Église, merci pour ce que tu as changé dans ma vie. Ça veut pas dire que ma vie est parfaite, mais il y a une ligne quand même qui est là. Tu as changé ma vie. Imaginez si on est capable de dire en tant qu'Église, bien, on va gagner chacun une âme cette année. On va faire l'effort, on va sortir de notre zone de confort. On va dire, Seigneur, on ne sait pas comment on va arriver, on ne sait pas comment on va faire, mais on va gagner une âme. Parce que c'est toi qui agis à travers nous. Tu nous as promis que tu allais être avec nous, puis on veut le croire, puis on va gagner une âme cette année. Et alors qu'on va, on va chanter un chant terminant, je vous inviterai à vous lever en terminant. Et puis, simplement, alors qu'on chante, de garder une atmosphère de prière, garder un cœur en prière devant Dieu. Puis juste de, peut-être que ça peut être un nom, ça peut être une personne, ça peut être un frère, une mère, ça peut être n'importe qui, un ami, un collègue de travail. Mais mettez devant Dieu un nom ce matin. Dire que moi, je veux gagner cette personne-là. Que je veux, Seigneur, qu'alors que je suis ici les dimanches matins, que tu œuvres ici, je veux gagner une âme pour toi. Cette personne-là, je veux la gagner pour toi. Puis alors qu'on va le faire, l'Église de Jésus-Christ va avancer. Puis ensemble, on va changer notre Église, on va changer notre ville, son royaume va avancer ici, dans la région d'Ottawa.
Oh, no.
encore plus vers l'extérieur. Seigneur, tu es venu interpeller nos cœurs. Tu es le nom qui change tout. Tu es venu placer une ligne, pas une ligne courbe, mais une ligne droite dans nos vies. Seigneur, je te demande ce matin, de, pendant que nos cœurs élèvent un chant nouveau, je demande de donner des gens spécifiquement à chacune des personnes qui est ici. Il y a une personne, il y a deux personnes. Certains en ont plus, selon les talents de tous et chacun, sans aucune pression, mais avec une passion pour toi. Une passion de voir ces âmes venir à toi, Seigneur. Seigneur, éveille nos cœurs, Seigneur. Les filets sont prêts. Et comme Pierre, on est allé pêcher. On est revenu. On a fait ce que l'homme pouvait faire. Toi, Seigneur, tu dis « jette ton filet à droite ». Et nous savons, Seigneur, que quand toi, tu nous demandes de jeter nos filets, il y a une joie dans l'Église. Il y a une abondance dans l'Église. Ramène les enfants à la bergerie, Seigneur. Ramène les fils et les filles à la bergerie. Seigneur, restaure, transforme, guéris ceux qui en ont besoin, non pas pour qu'on se fasse du bien, afin que la francophonie de la région, les 192 000 francophones de la région, soient impactés, changés, et qu'un nouvel espoir se lève dans Ottawa. On te demande cela, Seigneur. Descends. On te remercie, Seigneur. Élevons nos voix. Élevons nos voix juste pendant ces quelques minutes. Élève ta voix. On peut voir par la foi. Tu vois des gens. Élève ta voix pour cette personne, pour ton voisin, pour ta voisine. Élève ta voix. Élève ta voix pour cette personne peut-être avec laquelle tu as eu une conversation. Élève ta voix. Écouter la parole de Dieu, j'en vois qui regardent l'heure et qui disent « Hey, il est 11h11, ça finit tout, c'est pour te permettre d'évangéliser. » Donc, c'est un bon timing, je crois, fermement.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Innis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.